Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Pierre Plantier.
Bonjour, bonsoir. Son album précédent, une adaptation de l'œuvre de George Orwell 1984, a été salué par le public et par la critique, avec au passage plusieurs prix à la clé. Il a aussi signé d'autres albums de bande dessinée autour d'Egon Schiele, Arthur Rimbaud ou Gustave Eiffel. Cette fois, ce n'est ni une biographie, ni une adaptation littéraire que vient nous présenter Xavier Coste, mais un scénario original qui nous emmène dans l'univers des freaks, sur les traces d'un homme à la pilosité faciale si abondante qu'il en est devenu une bête de cirque. L'homme à la tête de lion de Xavier Coste est paru aux éditions Sarbacane et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Xavier Coste.
Bonjour.
L'homme à la tête de lion, c'est à la fois le personnage principal de l'album et le narrateur. C'est lui qui nous raconte sa propre histoire. Et à la page 12, il se présente et il nous prend, nous lecteurs, à témoin. D'abord, dit-il, d'abord, laissez-moi me présenter, Hector, velu, poilu. Pour vous servir, ça vous va. Donc c'est vraiment, ça claque, on voit tout de suite le côté très direct du personnage. Et cette page 12, c'est en quelque sorte la seconde couverture de l'album, si j'ose m'exprimer ainsi. Il y a même l'inscription Xavier Coste présente. Vous pouvez nous décrire cette planche et nous dire qu'est-ce qui vous en a donné l'idée ?
Tout à fait, et vous voyez très bien, parce que c'était le projet de couverture que j'avais initialement. Donc sur cette page, on voit une fausse affiche de cirque avec l'homme à la tête de lion et son visage, et puis c'est aussi ses habits de scène. Je voulais présenter ce personnage de façon très théâtrale, et finalement, sur la couverture, j'ai choisi de mettre une distance par rapport à ça. C'est vrai que ce personnage, c'est quelque chose qui me hantait, en fait. J'avais envie de faire un projet j'allais inventer l'histoire, mais je me suis parti de photos d'hommes qui s'appelaient hommes à la tête de lion, parfois hommes à la tête de chien. Il y en a eu deux ou trois dans l'histoire. Deux, on ne sait quasiment rien. On a des photos qui, je trouve, sont extraordinaires, dégagent une certaine puissance. Parfois, elles sont très floues. Mais je savais que j'avais envie de dessiner ces personnages-là. Mais je ne savais pas ce que j'allais pouvoir raconter. Et en fait, je me suis débloqué en me disant que j'allais essayer de rentrer dans leur tête. Et finalement, comme vous le dites, c'est à partir de cette page-là où je rentre dans la tête du personnage et le lecteur aussi...
Mais pourquoi aviez-vous envie justement de parler de ce genre de personnages, alors des gens qui souffraient probablement d'une maladie congénitale qu'on appelait, je crois, qu'on appelle toujours d'ailleurs sans doute, l'hypertrichose, hein, donc littéralement l'excès de poils.
Pour plusieurs raisons, tout simplement parce que j'ai une vie tout à fait ordinaire, c'est-à-dire que je dessine des albums de bande dessinée tous les jours.
Oui, c'est très ordinaire, je suis sûr que des millions de nos auditeurs partagent ça avec vous.
Ce qui est assez confortable, mais du coup j'aime rêver à une vie plus difficile, plus torturée, et j'ai toujours eu un fait pour ces personnages-là, et c'est pas pour rien aussi que j'ai fait des albums sur Egon Schiele, le peintre autrichien, ou sur Arthur Rimbaud, qui ont eu des vies vraiment cabossées.
Plus que torturées, oui, pour le coup.
Complètement, et pour moi, ça faisait sens de poursuivre dans cette lignée-là avec cet homme à la tête de lion, parce qu'il me permettait graphiquement de créer une sorte de fantaisie, presque de mythologie, autour des monstres de foire. Et aussi parce que en tant que lecteur et même en tant que spectateur, je pense par exemple au cinéma, à travers les films, notamment les films de Truffaut, moi j'aime beaucoup les récits de personnages. J'ai pas besoin qu'il y ait du suspense, qu'il y ait vraiment un fil à suivre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de suivre un personnage, de suivre ses pensées. Et le tout, c'est d'avoir un personnage suffisamment fort pour que le lecteur ait envie de vous suivre dans l'aventure.
Alors quand moi je tape dans mon moteur de recherche préféré « Homme à la tête de lion », je tombe sur un artiste de cirque d'origine polonaise, de son vrai nom Stéphane Biwrowski, qui comme votre personnage Hector est allé tenter sa chance aux États-Unis, en l'occurrence sous les chapiteaux du cirque Barnum. Est-ce que peu ou prou Hector a été inspiré par la photo qu'on peut vraiment très très facilement retrouver sur le net de Lionel Stéphane Biwrowski?
Oui et non. Oui, d'une certaine manière, parce que c'était donc un personnage qui évoluait dans l'univers du cirque avec cette maladie qu'on appelle hypertrichose, où on a le visage hyper velu. Mais il y a eu d'autres personnages qui ont eu la même carrière, mais qui était, comment dire, moins présentable, qui était presque hirsute. Là, le personnage que vous me présentez, oui, il est extrêmement bien peigné, il est propre sur lui. Et moi, j'avais envie d'un personnage plus rugueux, plus animal. Et en fait, c'est quand je me suis aperçu que je voulais ce côté animal à mon personnage, que en fait, c'était évident, il fallait qu'il y ait un lien avec le lion, tout simplement, et que le personnage, finalement, puisse se transformer en véritable lion.
Alors, c'est vrai que le vôtre hein, de personnage, il a les cheveux plus courts, il a effectivement beaucoup moins de poils. C'est important parce que le nez est beaucoup plus apparent dans la BD que sur la photo de Bibrowski que je vous ai apporté également en studio. Le nez, la bouche, on le voit, c'est important aussi, ça, pour faire sentir au lecteur le ressenti, la psyché du personnage.
J'ai eu du mal à le représenter, en fait, parce qu'il est entièrement velu. Et du coup, ça donne une sorte de masse informe. Et au final, à part les yeux et le nez, il n'y a quasiment rien sur ce visage. C'est presque un smiley.
Alors justement, comment est-ce qu'on fait dans ces conditions-là pour faire passer des émotions au lecteur ?
Eh bien, on rature beaucoup, on jette et on fait pas mal d'essais. Et je me suis aperçu qu'en renforçant les contrastes sur mon dessin, par exemple, ça allait faire ressortir les yeux. J'ai essayé d'accentuer les poils, de jouer plus là-dessus que, par exemple, sur la bouche ou des choses comme ça, parce que finalement, on voit très peu ses yeux, on voit très peu sa bouche, parce qu'il est entièrement velu.
Alors, à la page 24 de votre album, il y a deux cases qui se succèdent tout en bas de la page. Dans la première, il y a le visage d'Hector. Et dans la seconde, le visage du lion. Quand vous avez dessiné ces deux cases-là, les premiers traits étaient les mêmes ?
Oui. En fait, ça fait partie des accidents heureux. C'est-à-dire que quand je travaille sur une histoire comme celle-ci, j'ai déjà une sorte de crayonné de l'album, mais qui est vraiment une base. Et quand je travaille sur une planche comme celle-là, je n'avais pas du tout anticipé de faire ce parallèle-là.
Oui.
En fait, c'est né en faisant le dessin. C'est que j'ai commencé par dessiner le personnage. Je me suis dit, mais en fait, il suffit de quelques traits pour que ça devienne un lion. Et aussitôt, j'ai écrit aussi le texte qui accompagne ces cases-là. Et ça, c'est quelque chose que je trouve assez chouette dans le processus de création. C'est d'essayer de se surprendre soi-même pour essayer aussi de surprendre le lecteur, pour ne pas travailler de façon monotone tous les jours.
Some said never, but they never done come. Yeah, and took our trust. It's been winning, but the lovers ain't done. Yeah, not on my watch.
Yeah, if you
took all my rights away.
Yeah, if you
telling me how to pray.
Yeah, if you
won't let us demonstrate.
Yeah,
wrong.
Yeah, if you
thinking I don't belong.
Yeah, if you
hiding behind a gun.
Yeah, if you
hoping we're gonna run.
Wrong.
We are the lions, we are the chosen. We're gonna shine out of the dark. We are the movement, this generation. You better know who we are, who we are.
Yeah, if I
some said fire when the fire was ice. I'm not paying the price. No, not in this life.
Yeah, if you
took all my rights away.
Yeah, if you
telling me how to pray.
Yeah, if
you won't let us demonstrate.
Yeah,
wrong.
Yeah, if you
thinking I don't belong.
Yeah, if
you hiding behind a gun.
Yeah, if
you hoping we're gonna run. Wrong. We are the lions. We are the chosen. We gonna shine. Fire, let me get higher, I'll feel the fire. Always the higher, I'll take you higher. We come gonna higher, girls admire. Well, living, we're growing, we're pride. All of the lions, we strive. Working so hard to unite. United, we're tired of lies, tired of lies. Whoa, whoa. We are the lions, we are the chosen.
Lions, Skip Marley dans VMDN sur RFI avec Xavier Coste pour son album L'homme à la tête de lion aux éditions Sarbacane. Alors, votre personnage s'appelle donc Hector, et Hector commence, Enfin, c'est pas comme ça que l'album commence. On va revenir sur la scène d'ouverture dans un instant. Mais en tout cas, il commence quelques pages plus loin à nous raconter son enfance, le cirque, évidemment, puisque à peine né, en fait, il est monté sur les planches à l'initiative de son père. Il s'y sent bien dans ce premier cirque, Xavier Coste.
Il a rien connu d'autre, donc ça lui paraît être une voie toute tracée, une voie normale. Et ce que je trouvais intéressant dans la démarche de ce livre, outre le fait de rentrer dans la tête de ce personnage, c'était se placer de son point de vue, c'est-à-dire...
Dire « je », c'était évident, qu'il fallait qu'il soit le narrateur.
C'est ça, mais je voulais savoir jusqu'à quel point il acceptait de jouer le rôle qu'on attendait de lui. Parce que bien sûr, quand il est enfant, en plus il a été placé là par son père, ça lui paraît normal de faire ça, d'être une
son
bête
de foire.
Son père
qui était déjà dans le milieu du cirque et qui souffrait... du même problème pileux que lui.
Et exactement, et moi c'était une thématique que j'avais très à cœur d'explorer, c'était le fait qu'en fait il y a une ouverture très courte dans l'histoire de l'humanité où des gens qui avaient un problème très grave et très handicapant en fait pouvaient tirer ça à leur avantage et devenir des stars et devenir extrêmement riches. Mais ça impliquait aussi de se renier et finalement et d'accepter le rôle de monstre qu'on attendait d'eux. Quoi.
Alors le cirque, c'était mon cocon, dit-il, sous votre plume, Xavier Coste, c'était mon cocon. J'oubliais que je n'étais pas normal, mais quand il va à la boulangerie, eh bien, il fait peur à tout le monde. Il y a une petite scène comme ça qui commence très légèrement et qui est absolument terrible, en contraste total avec la planche suivante qui, moi, m'a tout de suite vraiment beaucoup intéressé, beaucoup impressionné, puisqu'on a un Hector encore enfant, donc il sort de la boulangerie, donc il a une baguette de pain sous le bras, et immédiatement derrière lui, il y a un énorme lion debout sur ses deux pattes arrière, un lion qui rugit et qui a l'air d'autant plus rugissant. Vous pouvez nous décrire, nous raconter cette planche, elle est vraiment composée comme un véritable tableau.
Merci. Alors pour moi, c'est une image qui illustre le fait qu'il y a vraiment un feu qui grandit en lui et qui ne va plus le quitter, quoi, jusqu'à finalement une sorte d'explosion finale. Et
il est dépassé par le lion.
Complètement, il est submergé par sa part animale. Et c'est aussi une thématique du livre. C'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir avoir une grande pagination sur ce livre. Et du coup, il y a pas mal de thèmes et de sous-thèmes que j'ai pu explorer. Et cette part animale, c'était un thème que j'avais à cœur. Déjà parce que je trouvais ça intéressant d'un point de vue scénario, mais aussi parce que graphiquement, je savais que ça allait me permettre de faire, entre guillemets, des belles images.
Alors justement, décrivez-la nous, cette image. Donc vous l'avez composé encore une fois.
Voilà, ben on a effectivement Hector qui est tout petit et presque inoffensif, qui vient finalement de se faire rejeter par d'autres enfants à la boulangerie et qui en fait se rêve en bête monumentale. Et c'est vrai que j'aime bien accompagner moi ces scènes-là par des sortes de rêveries nocturnes. Donc il y a un ciel étoilé derrière lui. Ça fait partie des images que j'appelle aussi des images clés. C'est-à-dire que maintenant, quand je fais un livre, j'aime bien avoir des pleines pages où le dessin va vraiment exprimer toute l'émotion que je cherche.
Exprimer et exploser l'émotion, d'une certaine façon. On peut dire ça comme ça.
Pour deux choses. Déjà, en tant que dessinateur, c'est quelque chose qui me fait vraiment beaucoup de bien. Et ça me permet de sortir aussi des cases, d'être dans le dessin pur. Et aussi, dès que c'est possible, j'essaye finalement de limiter au plus possible le texte quand il y a des images comme ça, pour qu'on garde un côté visuel et on ait une image qui reste entêtante, et j'espère que c'est le cas pour vous.
Alors complètement, effectivement, la preuve, vraiment, j'y suis revenu à plusieurs reprises au cours de ma lecture, à cette image qui résonne d'ailleurs avec d'autres moments de votre récit. Notre réalisateur à nous, Pierre Plantier, a mis en onde une autre séquence qui se trouve aux pages 20 à 22. On est toujours donc dans le premier cirque d'Hector, quand une cartomancienne lui dit la bonne aventure.
J'étais arrivé à l'âge où l'on aspire à sortir, à découvrir le monde, ses splendeurs, où l'on a soif de marcher sur des terres inconnues, où la forêt d'à côté a le même pouvoir d'attraction qu'un continent inexploré. Mais mettre un pied en dehors de ma caravane et de la famille du cirque me terrifiait de plus en plus.
Hector, mais dis-moi, je ne t'ai jamais tiré les cartes, mon lionceau.
Pas intéressé, je ne crois pas à ces salades.
Mais c'est qu'il rugit, l'animal. Allez, viens, ce n'est pas dans les bouquins que tu vas lire ton avenir. Ce ne sera pas long. Attention à la tête, c'est pas Versailles chez moi. Maintenant, laissons parler les cartes. Intéressant. Le chariot, le diable et la lune. Je vois énormément d'agitation dans ta vie. Avec le chariot, il va y avoir du déplacement. du voyage. Ta situation va changer. La carte du diable, elle symbolise l'énergie, mais aussi l'excès et la violence. Tu peux facilement te laisser aller à des comportements et des choix qui ne seront pas bons pour toi. Et la lune ? Une carte qui pose beaucoup de questions. Généralement, celui qui la reçoit se trompe sur sa situation. Tu es en quête de réponses. Tu es perdu. Tu ne le sais pas encore. Mais ce qui me frappe surtout, c'est la présence du homard sur cette carte. Le crustacé correspond aux manifestations de notre inconscient. Dans ton cas, il n'a pas la même signification. Il représente ton plus grand ennemi. La constellation du cancer. Il cherchera à t'anéantir.
Je me fiche bien de tout cela. Dis-moi plutôt si je vais peindre quand je serai grand.
Tu repousseras toujours le moment de t'y mettre, de te confronter à ce que tu es réellement. Mais tu finiras par le faire. Enfin, je crois.
Avec succès ?
Je n'en sais rien. Donne-moi mon argent maintenant.
Tu plaisantes ? Tu m'as invité à venir te voir ? Je n'ai jamais cru une seule seconde à toutes ces histoires de cartomancie. Espèce d'escroc. Mais ça va pas la tête ?
Tu en veux une autre ?
Sale folle !
N'oublie pas, la constellation du cancer. Tu devras y faire attention. Très attention.
Et c'est cette scène, Xavier Coste, qui préfigure l'une des intrigues du récit. Et je trouve ça assez intéressant parce que, bon, on comprend évidemment que le personnage de la cartomancienne dans l'univers du cirque, à cette époque-là, de l'histoire, se pouvait s'imposer. Mais pourquoi aviez-vous besoin, comme ça, d'instiller ainsi une forme de suspense, une forme de tension aussi, sur le devenir d'Hector ?
Je trouvais ça intéressant dans le sens où comme j'aime tellement les récits de personnages, je sais que tout le monde n'est pas comme moi et je voulais essayer de créer des petites intrigues et justement amener le lecteur à se poser la question sur quel est ce mystérieux adversaire finalement qui va surgir. Et ça ouvre la porte à donc un autre acteur du cirque qui est Lobster Boy. Un personnage qui a des pinces à la place des mains, d'où la constellation du cancer, en fait. Donc, je voulais subtilement qu'on puisse amorcer ce personnage-là dans l'histoire.
Personnage qui va arriver beaucoup plus tard, évidemment, dans l'album. Alors, dans cette scène, Xavier Coste, mais c'est vraiment le cas dans beaucoup d'autres, on découvre aussi votre style graphique qui est très particulier et qui change d'ailleurs d'une scène à l'autre. Par exemple, il y a ces cases avec ce quadrillage que l'on retrouve à plusieurs reprises dans votre récit. Il y a souvent une trame. Parfois, c'est du quadrillage. Parfois, ce sont des points. Parfois, ce sont uniquement des lignes assez rapprochées. Alors, question à la fois très simple et très compliquée. Pourquoi ce choix de technique ? Pourquoi ce choix de trame et de trame au pluriel, de trames différentes, et pour quels effets ?
J'essaye de plus en plus à chaque livre de donner une tonalité différente à la fois au livre que je réalise, qui est quelques couleurs prépondérantes. Donc là, sur ce livre, j'ai travaillé avec une chromie très réduite. Et aussi, techniquement, j'essaye de changer d'outil d'un livre à un autre. Et là, j'ai voulu tester ce système de trame que je n'avais jamais expérimenté. Déjà parce que graphiquement, il y a quelque chose qui me plaisait. Donc, il y a des quadrillages et il y a aussi des systèmes de trame avec des points qui reproduisent les impressions de mauvaise qualité de début 1900. Ouais. Donc, je trouvais que ça pouvait donner une certaine atmosphère un peu passée au livre, qui est aussi contrebalancée par des couleurs assez osées par moment. Et je trouve ça intéressant d'avoir toujours un décalage entre modernité et quelque chose de très ancien. Donc c'est quelque chose que je voulais creuser. Et puis aussi, effectivement, d'une page à l'autre, ça varie. Ça varie tout simplement parce que j'essaye toujours d'avoir à l'esprit que j'ai tout simplement la chance de faire ce métier, de faire les livres que j'ai envie de faire et presque de la manière dont j'ai envie de les faire, tout simplement. Donc j'essaye de m'amuser tous les jours quand je dessine.
Donc vous êtes un expérimentateur, Xavier Coste.
C'est ça. Et du coup, d'une page à l'autre, même si j'utilise des trames, j'utilise jamais la même trame d'une page à l'autre.
Mais comment ça se construit une trame techniquement ? Quels outils on utilise ?
C'est en grande partie au numérique. Je fais énormément d'essais. C'est vrai que je travaille en grande partie en traditionnel et aussi en numérique. Parce que ça m'aide à remanier mes pages pour justement oser des choses, oser des directions que j'aurais pas osé prendre si je travaillais uniquement en traditionnel. Parce que du coup, par exemple, si vous voulez un ordre d'exemple, il y a des pages où j'ai pu faire une dizaine ou une quinzaine d'expérimentations, mais du coup, j'aurais passé deux semaines sur une seule et même page. Donc l'avantage du numérique, c'est que ça peut m'aider à aller plus loin que ce que j'aurais pu faire en temps normal.
Alors, il y a des pages où vous utilisez les trames, il y en a d'autres où vous n'utilisez pas du tout. On a un peu l'impression que parfois, c'est juste un crayonné et puis des feutres. Je ne sais pas si c'est une impression que vous confirmez ou pas du tout.
Non, c'est tout à fait juste.
Comment ?
C'est tout à fait juste. C'est que ce jour-là, j'avais juste envie d'utiliser un crayon. Et
voilà, c'est une question d'envie. Parce que la question suivante, c'était justement, qu'est-ce qui vous fait choisir l'une ou l'autre option d'une scène à l'autre ? Par exemple, la trame, le quadrillage est souvent utilisé pour les buildings new-yorkais, donc pour tout ce qui est urbain, pour les rayures sur les murs, derrière les personnages aussi. Mais ces grandes taches de couleurs, par exemple, qui sont parfois effectivement très, très marquantes, très fortes, qui attirent tout de suite le regard, vous ne les placez pas n'importe où.
Non, c'est vraiment à l'instinct en fait. Quand je commence une page, je me dis pas je vais mettre forcément une trame ici. Ça se fait au fur et à mesure en fait. C'est vrai que c'est assez mystérieux même pour moi. Je saurais pas forcément expliquer toujours mes choix. Après, ce qui est sûr, c'est que quand j'ai quasiment terminé l'album, par contre, je fais beaucoup de repasses et j'uniformise le tout. Donc, bien sûr.
Vous uniformisez en même temps, il n'y a pas deux pages qui se ressemblent. Quoi. On est toujours surpris, nous lecteurs. C'est-à-dire, il n'y a pas du tout un risque de routine. Au contraire, on peut parler des cases, par exemple. Vous n'êtes pas du tout dans le gaufrier traditionnel, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais parfois, il y a des cases, parfois, il n'y a pas de cases. Parfois, il y a des cases dont les personnages sortent. Il n'y a pas deux pages, encore une fois. Pareil, parfois, on est vraiment dans la BD avec des dialogues très construits. Parfois, on est plus dans un récit un peu illustré. Tout ça, c'est vraiment pensé donc, dans un storyboard dès le départ, quitte évidemment à changer les choses en cours de travail.
Oui. Bah, comme là, j'ai une pagination assez libre, finalement, je pouvais même faire le nombre de pages que je voulais.
Oui. L'album fait à peu près 200 pages.
C'est ça. Mais sur la première version que j'avais envoyée à mon éditeur et qui avait été validée, on était à peu près sur 150 pages. Mais j'avais une vision relativement précise de ce que j'allais raconter. Mais en créant le livre, tout de suite, je voyais que certaines scènes méritaient 5 pages au lieu d'une page. Et je trouve ça très agréable que ça puisse évoluer en cours de route. Et ce qui se passe le plus souvent, en fait, c'est que je vais avoir tendance à donner plus d'espace à mon dessin, et c'est-à-dire à étirer, à faire avec le matériel que j'avais pour une page, par exemple, je veux dire n'importe quoi, 5 ou 6 cases, finalement, chaque case, je l'utilise pour faire une pleine page. Et ça, c'est quelque chose que je m'interdisais un peu à mes débuts, parce que ici, c'est mon 8e livre, de rien, ça fait 10 ans que je fais de la BD, et du coup, je réfléchis beaucoup à ce que je fais. Et à contrario, sur mes premiers livres, je me sentais obligé de rester dans un canevas plus classique. J'avais une pagination plus réduite, donc je ne pouvais pas me permettre d'avoir des pleines pages où il y avait juste un seul dessin. Alors que ici, c'est le cas sur plusieurs pages.
Oui, liberté.
Et du coup, pour moi, cette façon de sortir des cases, c'est quelque chose qui a été extrêmement libérateur. Et c'est venu, en fait, quand je me suis affranchi du format plus classique sur mon avant-dernier album, qui était l'adaptation de 1984, où j'avais expérimenté un format carré.
Alors justement, ce format carré, effectivement, vous l'avez utilisé pour cette adaptation de George Orwell. Le format carré, c'est le format de la liberté, là aussi ?
Ah bah complètement. En fait, j'ai vraiment plus du tout l'impression de faire mes devoirs, comme ça avait pu être le cas par moment. C'est-à-dire que c'est très mystérieux, mais quand je commence un dessin sur un format carré, pour moi, c'est du plaisir pur, en fait. Oui.
Rien à foutre d'être dans le coup. Je préfère nager chelou en tant que victime. Avec moi et mes peines orphelines, laisser les gens parler dans le fond. Galaisse-moi là dans le flou. Tu verras, je peux faire de grandes choses avec mon spleen. Pas besoin de faire comme tous ceux qui se confondent. J'ai de l'or dans mon moleskine. À refaire, je ne serai pas celui qui se plie pour tenter de plaire. Je serai celui hors des critères qui choisit son temps. À refaire, je serai plutôt celui qui se met en avant et fier. Ce qu'on n'a pas voulu faire de lui, qui s'est trop longtemps laissé taire. À tous les bizarres, oh, les étranges, oh, les bâtards. À tous les monstres, ceux qui dérangent les mises à l'écart. À tous les parias, oh, les exclus, oh, sans égard. À tous les seuls, ceux dans leur chambre, toujours dans le noir. Freaks, 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 freaks. As-tu vu mes écailles? Quand je nage dans les rues, as-tu vu mes écorces là, qui me protègent à mon insu? Vu sentir mes balafres contre les casses, toi tu pues. Moi je ne marche plus à l'ombre, moi je ne marche plus à l'ombre. J'ai mis dans les magazines toutes mes tares qu'on se le dise. Je
compte encore m'en servir. Les remettre dehors que ça brille. À tous les bizarres, oh les étranges, oh les bâtards. À tous les monstres, ceux qui dérangent les mises à l'écart. À tous les païens, oh les exclus, oh sans égard. À tous les seuls, ceux dans leur chambre, toujours dans le noir.
Freaks, Eddie de Preto dans VMDN sur RFI, une chanson qui vous l'avez comprise et qui vous l'avez compris est une ode à la différence qui résonne évidemment avec votre album à vous, Xavier Coste, L'homme à la tête de lion que vous publiez chez Sarbacane pour votre héros et Hector. En fait, être différent, c'est à la fois source de souffrance mais aussi source de succès. Vous expliquiez vous-même tout à l'heure eh bien, qu'avoir son aspect physique à cette époque-là, à travers le freak show, ça pouvait lui permettre effectivement de recevoir beaucoup d'argent. Il y avait des cachets absolument énormes, hein, en particulier outre-Atlantique, pour ces êtres très singuliers qui étaient considérés à la fois comme des monstres et comme des artistes.
Oui, je suis tombé sur des documents d'époque qui recensaient les sommes qu'ils engrangeaient à l'époque. Et d'ailleurs, j'en faisais mention dans une première version de l'histoire. Et en fait, quand je faisais lire l'album, tous les lecteurs tiquaient là-dessus parce que ça paraissait démesuré. On avait l'impression que je m'étais trompé dans les chiffres. Mais les phénomènes de foire à l'époque touchaient l'équivalent de ce que touchent nos stars hollywoodiennes aujourd'hui, quoi. Donc moi, c'est pas du tout la vision que j'en avais. Je pensais qu'ils étaient tous plus ou moins exploités. C'était le cas de certains d'entre eux, bien sûr, surtout ceux qui avaient vraiment des déficiences et qui ne pouvaient pas être autonomes. Donc, bien sûr, eux étaient exploités, mais j'étais vraiment étonné de voir que leur vie était aussi confortable.
Alors, la jeunesse de votre personnage, Hector, c'est le cirque, c'est aussi une amitié avec son compagnon de roulotte qui s'appelle Anton, qui va devenir donc son ami. C'est un avaleur de couteaux. C'est même plus qu'un ami, Xavier Coste. C'est une sorte de grand frère, une sorte de mentor, en fait.
Oui, tout à fait. Donc, il va l'initier à la littérature et aussi à l'art. Ce qui va lui permettre de passer d'une bête de foire monstrueuse qui rugit en public à finalement un orateur. Il pratique l'art oratoire, il récite des grands poèmes, il devient une bête érudite. Et ça, c'était un paradoxe que je trouvais intéressant parce que le personnage lui-même, l'homme à la tête de lion, ne sait pas où se situer par moment. Il a envie de faire appel à une bestialité très animale, très primaire. Et en même temps, il se voit comme quelqu'un de très... très littéraire, de très érudit. Et moi, je suis toujours intéressé par les personnages ambigus. Et je pars du principe que rien n'est jamais tout blanc ou tout noir. Et je trouvais ça intéressant d'avoir cette dichotomie.
Alors, il a effectivement l'amour des livres, l'amour de la lecture. Il apprend les aphorismes d'Oscar Wilde, les poèmes de Milton. Il apprend aussi l'art, vous le disiez il y a un instant, en particulier les expressionnistes. Et il décide en cachette, hein, Hector. Il aspire aussi à devenir peintre. On se dit que l'identification entre lui et l'auteur de bande dessinée, finalement, on n'en est pas très loin.
Bah, je vais vous faire une confidence. J'ai un léger strabisme, ce qui fait de moi un freaks. Donc, je sais ce que c'est d'être.
Vous avez un peu de poil au menton aussi, mais on n'en est pas au même niveau qu'Hector, quand même. Hein.
Donc, je sais ce que c'est qu'être un monstre, mais...
Mais c'est aussi un artiste du dessin.
Voilà. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que ça fait 10 ans que je fais de la bande dessinée et je me vois un peu comme un peintre frustré. C'est-à-dire que j'aimerais beaucoup faire des toiles. J'en fais un petit peu, mais en fait... Je me rends compte que j'ai trop besoin de raconter des histoires. Donc finalement, j'ai fait quasiment que de la bande dessinée. Et le fait de faire exploser le format, comme je vous en parlais tout à l'heure, c'est une façon pour moi aussi de libérer cette part primitive qui a envie de s'exprimer avec ses doubles pages, ses pleines pages, où c'est juste le plaisir de poser des couleurs, de poser des taches de peinture. Et souvent... les images les plus grandes du livre, en fait, qui sont presque les images coup de poing, c'est les images les plus rapides à faire. Et c'est,
ah oui.
C'est les images qui me font beaucoup de bien.
Alors justement, la première double page, puisque vous en parlez, Xavier Coste, que l'on trouve dans cet album, elle se trouve page 6 et 7 de l'album. Bon, c'est la Statue de la Liberté, on la reconnaît évidemment tout de suite. Et puis il y a le bateau, le paquebot sur lequel a embarqué le personnage d'Hector. Pourquoi part-il aux États-Unis déjà ? On est venu le chercher, hein, pour le coup.
Oui, bah lui-même ne sait pas très bien pourquoi. En fait, bien sûr, il est venu aux États-Unis parce qu'on lui a proposé un très gros cachet et aussi parce qu'il voit bien finalement qu'il fait du surplace dans son cirque en Europe. Donc, il a envie d'aller voir ce que peut donner quelque chose de plus grandiose et essayer de donner un second souffle à sa carrière aussi.
Alors, ce dessin donc, de double page avec la statue de la liberté, moi, il y a quelque chose qui m'a fait un petit peu sourire parce que, pour le coup, ça m'a rappelé mon enfance. Moi, quand j'étais à l'école primaire, on faisait de la brouine avec une brosse à dents. On mettait de la peinture et puis il y avait des petits points comme ça qui tombaient sur la feuille de papier. Alors, évidemment, j'étais très, 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 très loin d'avoir votre talent. Xavier Coste, vous n'avez pas utilisé une brosse à dents là, pour faire des petits points. C'est vrai, c'est la même technique, mais c'est extraordinaire.
Oui, c'est un secret de grands artistes de BD. Je ne sais plus quel grand auteur m'a dit ça, mais en fait, vous prenez une feuille blanche, vous mettez de la peinture noire sur une brosse à dents et vous faites des petites taches. Il n'y a plus qu'à scanner ça et ensuite, ça donne des choses merveilleuses. Donc, je suis désolé, j'utilisais la même technique que vous.
Et bien, c'est assez extraordinaire. Alors, pourquoi vous avez décidé, Xavier Coste, de faire une entorse à la chronologie et d'ouvrir votre album par cette arrivée aux États-Unis? Et après, vous revenez évidemment sur la naissance et sur l'enfance du personnage. Mais c'est vraiment par les États-Unis, par l'entrée à New York, comme tant de migrants d'ailleurs dans l'histoire du monde, que vous avez voulu débuter votre récit.
Oui, bah, pour donner un caractère un peu grandiose à l'introduction. Et aussi pour le mettre dans une position inconfortable, parce qu'il arrive à New York, comme vous le dites, au camp de migrants. Donc, il y a même un officier qui essaye de farfouiller dans ses poils pour voir à peu près à quoi il ressemble. Donc, il y a un côté humiliant. Il y a un abattage de questions. Qui vous êtes? Où vous venez? Vous avez combien d'argent? Etc. Et il a à peine le temps de répondre. Et c'est, comme c'est quelqu'un qui est très sûr de lui, je trouvais ça intéressant aussi de le mettre dans cette position-là qui est vraiment inconfortable.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Des lions, il y en a plein dans l'album, hein, souvent en arrière-plan pour souligner les pensées ou les arrière-pensées du personnage, souvent dans des scènes oniriques, des scènes de rêve ou de cauchemar, on le disait également tout à l'heure. Et d'un bout à l'autre de l'album, Xavier Coste, on est vraiment en empathie, au plus près des joies et des peines du personnage, avec ses colères, ses souffrances, ses questionnements aussi, qui sont extrêmement nombreux. Est-ce qu'on peut dire qu'il est torturé, ce personnage d'Hector ?
Complètement, c'est vrai. Comme je vous le disais, j'aime bien les personnages un peu tortueux. Et c'est vrai que maintenant, je me rends compte, maintenant que le livre est terminé, il est imprimé, mais quand j'étais dessus, donc c'était pendant 2 ans, il y a eu plusieurs versions du scénario, même quand le livre était fini, j'ai changé plusieurs fois les textes. Il y a des moments où il était beaucoup plus torturé, des moments où il était peut-être pas assez, et je voulais quelque chose qui ressemble de plus en plus à la vie, en fait, parce que bien sûr il y a des moments où on est heureux, des moments où on doute énormément, et je voulais que cet album soit un peu tout ça à la fois. Par contre, ce qui était important pour moi, c'était de ne pas avoir un album plombant. Je voulais qu'on finisse sur une note qui peut, comment dire, être libre à interprétation. On peut voir ça comme une fin positive. Pour moi, c'était important parce que je voulais pas que ce soit un livre négatif, même si le personnage, des fois, a des pensées négatives. Le sujet aurait pu être traité avec beaucoup de lourdeur. J'ai pensé le faire au départ de façon plus sérieuse, en m'inspirant notamment d'Elephant Man. Mais en fait, ça a été déjà tellement bien fait par David Lynch au cinéma que j'ai voulu apporter un peu plus de fantaisie, parfois un peu plus de légèreté. Il y a des moments aussi où je glisse de l'humour dans le livre.
Oui.
Je voulais vraiment que ce soit finalement comme un cocktail d'émotions. Et c'est vrai que quand on me demande même de résumer le livre, je suis souvent bien en peine et j'ai besoin des journalistes pour m'aider à le faire.
Alors c'est vrai qu'il y a de quoi faire quand même, mais c'est vrai que la petite réplique qu'on a entendue dans l'extrait qu'on a réalisé tout à l'heure, c'est pas Versailles ici, dit la cartomancienne. Ça, pour le coup, c'est une réplique très contemporaine. Contrairement à ce qu'on pourrait penser.
Oui.
Ça fait référence à une publicité célèbre à la télévision française.
Complètement. Et puis, il y a aussi même des blagues un peu plus terre-à-terre aussi dans le livre. Et je trouvais ça important sur mes précédents livres. Je me sentais obligé de finalement d'endosser une sorte de sérieux. Et là, je pense que vous l'aurez compris, plus ça va, plus je me lâche complètement, on va dire. Oui, pour le meilleur et pour le pire.
Et pourtant, Xavier Coste, il y a une scène moi, que j'ai trouvée extrêmement touchante. C'est quand Hector se fait repousser par une femme lion dont il pensait qu'elle serait heureuse de retrouver quelqu'un comme elle. C'est vraiment l'inverse qui se produit. Comment l'idée de cette scène vous est-elle venue?
C'est le genre de scène qui vient mystérieusement à l'esprit. En fait, elle n'était pas du tout dans le livre. Et je suis atteint d'un mal qui n'est pas très répandu. C'est quand je suis toujours en avance sur les délais imposés par l'éditeur. Ce qui est assez...
Ah, c'est extrêmement rare pour le coup, voilà, effectivement.
Je suis presque parfois obligé de mentir et de faire croire que je suis en retard. Mais du coup, j'avais quand même un peu d'avance. Et puis, je suis tombé sur une photo d'une femme à la tête de lion. Et c'est pareil, on ne sait rien d'elle. Je me suis dit, ce serait intéressant de les faire se rencontrer. Au départ, j'imaginais qu'ils pourraient même faire un bout de chemin ensemble. Et puis, je me suis dit que ce serait beaucoup plus intéressant, justement, qu'elle le repousse. Et elle lui dit carrément qu'elle ne supporte pas son propre reflet. Donc, ce n'est pas pour vivre avec quelqu'un qui est vraiment comme elle.
Nous sommes à présent à la page 58 de l'album. Nous sommes arrivés aux États-Unis, Xavier Coste et Monsieur Loyal, le directeur du cirque Hoffman, avec habit rouge et chapeau haut de forme, présente à la foule ses artistes.
Approchez, approchez! Oserez-vous pénétrer dans cette tente à part, bien à part, et découvrir nos fabuleux phénomènes dans notre sideshow? Si après cette visite, vous nous jurez sur l'honneur n'avoir rien ressenti, absolument rien, ni frisson, ni dégoût, ni haut-le-cœur, alors le cirque s'engage à vous rembourser le ticket d'entrée. Lequel de nos monstres saura vous emporter, vous faire frémir? Serait-ce Annie Jones, la femme à barbe? Inutile de le préciser, je sais, ça se voit comme la barbe au milieu de la figure. Ou Édouard Beaupré, le plus grand des géants, un bestiau de 2,52 m. Myrtle Corbin et ses quatre jambes. Daisy et Violette, les sœurs siamoises, unies pour la vie. L'homme lion, domestiqué, il vous récitera parfaitement la prose des plus grands auteurs de notre temps. Inimaginable pour une bête tout juste sortie de sa jungle, n'est-il pas? Ah, et Mirinda Jo, bien sûr, l'homme qui se transperce le corps sans la moindre blessure.
Même pas mal.
Général Tom Pouce, un garçon qui a arrêté de grandir. Old Boy, l'homme qui se fait tourner la tête comme on claque des doigts, fera-t-il tourner la vôtre? Et sans oublier notre cher Schlitzy, une créature étrange à mi-chemin entre l'homme, la femme et l'enfant. Et ce n'est pas fini, la liste est encore longue.
Dans cette présentation des artistes, ce nom Schlitzy, c'est aussi l'apparence physique très singulière de ce personnage, comme d'ailleurs tous les autres évidemment artistes du cirque, qui va résonner quand même très familièrement, je pense, aux yeux et aux oreilles de pas mal de lecteurs, notamment ceux qui ont vu le chef-d'œuvre de Todd Browning, sobrement intitulé Freaks.
Oh, hello, Elvira. Hello, Jenny Lee. Look, hasn't Slitzy got a beautiful dress? Isn't that pretty? When I get to Paris, I'm going to buy her a big hat with a long feather on it. And if you're good girls, when I get to Paris, I'm going to buy you a hat with a bigger feather on it.
Sure, fine. Well, it's there, sure, why? I wish you a man had with this in my time then.
Why, Slitzy, what's the matter? Oh, I'm sorry, Slitzy.
This house fine.
Voilà, Freaks, c'est un film de 1932 avec donc déjà ce personnage, on l'a entendu là dans l'extrait en anglais bien sûr, de Schlitzy. Vous pouvez nous le présenter, Schlitzy, Xavier Coste?
Oui, donc c'est un des Freaks, je trouve, les plus touchants parce que c'était un homme mais qui était un continent. Et ce qui était humiliant, c'est que du coup, on l'habillait avec une robe de femme pour pouvoir le changer plus facilement. Et il avait, d'après ce qu'on disait, l'intellect d'un enfant de 2 à 3 ans. Et il a été exploité toute sa vie. Il a fini de même manière assez tragique. Et immortalisé, comme vous le disiez, dans le film Freaks de Todd Browning. Et physiquement, il a une présence qui est assez incroyable avec cette dégaine, avec la robe. Enfin, je ne pouvais pas concevoir de faire un livre sur les Freaks et ne pas... Le mettre dedans. Et il y a quelques passages dans le livre où les autres personnages justement font mention de ce côté touchant du personnage.
Dans quelle mesure le film de Browning vous a inspiré, Xavier Coste?
Et ben, je dirais dans une moindre mesure, parce que j'avais bien sûr vu des extraits, notamment ceux avec Schlitzy, mais j'ai fait le choix de ne regarder le film qu'une fois que j'avais terminé mon album, pour pas être trop influencé. Et finalement, j'étais assez étonné de voir vraiment des passerelles dans l'ambiance entre le livre que j'ai fait et le film. Et j'étais aussi étonné de voir finalement que c'était une vraie histoire de fiction. Je m'attendais à quelque chose de plus documentaire et c'est vraiment une œuvre forte. Et là, mon livre est sorti depuis quelques semaines et je suis assez étonné du nombre de lecteurs qui me parlent du film. Je pensais que c'était beaucoup plus méconnu que ça. Et finalement, c'est un film qui a quand même plus de retentissement que je ne le pensais en France.
Voilà, je souhaite évidemment le même retentissement à votre album, Xavier Coste. D'un bout à l'autre de l'album, et ça m'a étonné parce qu'en le relisant, je m'en suis rendu compte que dès le départ, vous en parliez à travers le personnage du père d'Hector. On sent la peur du changement, en fait, parmi les freaks, avec l'arrivée du cinéma, avec l'arrivée des illustrés, avec l'arrivée des autres loisirs qui menacent comme ça de détrôner les cirques. On a toujours le sentiment diffus, finalement, au-delà de l'exemple du cirque, que le succès est extrêmement fragile.
Oui, ce qui m'intéressait, c'était de parler notamment du monde de l'édition et de la bande dessinée en particulier. C'est-à-dire qu'on est submergé par les ventes de mangas et les BD comme celles que je fais, finalement, ont tendance à devenir minoritaires. Et du coup, ça faisait plusieurs années que j'avais envie de parler de ça, mais je trouvais ça plus intéressant d'en parler à travers un autre médium, un autre média. Et quand j'ai commencé à travailler sur ce livre, je me suis aperçu qu'il y avait vraiment des passerelles entre l'âge d'or du cirque, qui était presque concomitant avec son déclin, qui est vraiment survenu très rapidement avec la modernité, c'est-à-dire la radio, la télévision et le cinéma. Et c'est quelque chose que je trouve intéressant, c'est questionner aussi la longévité de ce qu'on fait, la longévité d'une œuvre. Et finalement, même si mon personnage connaît à un moment du livre un énorme succès, finalement, il se dit que c'est tellement fugace que ça ne le touche pas plus que ça. Ouais.
Et c'est ce que vous vous êtes dit quand vous avez reçu cet accueil pour votre précédent album 1984, Xavier Coste. Le succès est fugace, profitons-en un maximum, on ne sait jamais, le vent peut tourner.
Pas nécessairement, mais je trouvais ça intéressant de, dans quelque sorte, de casser mon jouet et de partir sur un projet vraiment différent. C'est-à-dire que j'avais d'autres envies de projets d'anticipation et de science-fiction. Et j'avais envie d'écrire une histoire personnelle et sur un thème complètement différent. Mais il y a quelques passages, effectivement, du livre où notamment, à la fin du livre, il croise son ami d'enfance, qui est devenu auteur à succès et qui est devenu relativement imbuvable.
Oui.
Et ça, c'est plein de petites anecdotes qui tiennent de rencontres que j'ai pu faire. Je ne citerai pas de nom, évidemment.
C'est bien dommage.
Mais j'essaye de me prémunir de ça. Mais heureusement, je garde les pieds sur terre et j'ai à la maison une enfant merveilleuse qui m'aide à ça tous les jours. Et pas plus tard qu'hier, elle m'a encore dit « Tu nous embêtes, papa, avec ton livre ».
Merci.
Donc ça aide à ne pas avoir la grosse tête.
Merci beaucoup, Xavier Coste. L'homme à la tête de lion est paru, je le rappelle, Fessarbac.
Le sens de la vie part en fade out. Aucune bonne raison, mais je veille tard. J'anticipe déjà le réveil d'après. J'aimerais bien pleurer, mais y'a rien qui s'y prête. Et s'ils sont vraiment pour le partage, alors qu'ils viennent me prendre une part de vide. De son plaisir dans l'appartement, le seul hic, c'est que j'en ai un petit peu marre de vivre. Ma douce, ma belle parle de moi, et je suis bien le seul que ça n'intéresse pas. Mais tout sur pause, appuie sur la barre espace. Si, je suis un fantôme dans le noir. Maladie moderne, je soupire jusqu'à mon dernier, c'est l'enfer. La machine marche à l'envers. Oh maladie moderne, je soupire jusqu'à mon dernier, c'est l'enfer, la machine marche à l'envers. Et la nuit porte le doute, perdu, je sais plus si je suis bloqué dans ma chambre ou bloqué dans ma tête. Vu que rien ne change, je me dis que j'ai pas de chance, comme la plupart des gens, mais je le mérite peut-être. Bien sûr que je me sens MAUDIT. Le vide fait du forcing pour me déiter. Demander de l'aide, j'aurais jamais idée. Pas du genre à crier trois fois Mayday. Nope, plus qu'à continuer de croquer dans ce fruit. Jusqu'à ce qu'il ait un goût de Goya. J'ai mis ma veste pour sortir boire un verre, mais je suis encore assis et tout à fermer. Bon comédien, je fais semblant de l'aimer. Ça deviendra vrai 3 jours et demi dans l'année. Mais ce 1% de plaisir est tellement raffiné. Je sais bien que le miel n'existe que grâce au vinaigre. Maladie moderne.
Maladie moderne, extrait du nouvel album de L'Homme Pâle dans VMDN. Qui n'a pas entendu parler de la Villa Médicis en Italie, là où les services culturels français accueillent des artistes en résidence, toutes disciplines confondues? Eh bien, une nouvelle version, figurez-vous, vient de se créer aux États-Unis, la Villa Albertine. Elle ne se hisse pas en haut d'une colline, mais elle fait face à Central Park, à New York. Son centre est basé là-bas, mais les résidences peuvent être organisées dans 10 villes américaines et même essaimer un peu plus loin sur le territoire si besoin. Hier, un programme de résidence africain a été lancé. 5 artistes du continent ont ainsi été sélectionnés pour venir passer 2 mois aux États-Unis cette année. Reportage pour VMDN de notre correspondante Karine Otten.
Offrir des résidences pour permettre dialogue et échange de part et d'autre de l'Atlantique, c'est l'un des objectifs de la Villa Albertine, qui a décidé d'aller plus loin en offrant un espace à des artistes africains pour qu'ils soient vus directement par les Américains. Gaëtan Bruel, directeur de la Villa Albertine.
Dans la même suite que la saison Africa 2020, dans la même suite que beaucoup d'initiatives qui ont été prises en France ces dernières années et dans les prochains mois, nous voulions en quelque sorte remettre aussi les clés de la Villa Albertine à une curatrice, Ngoné Fall, pour cette première année, qui a donc fait cette sélection de 5 profils d'artistes, de leaders culturels qui viennent des 5 coins du continent pour une résidence sur mesure à travers les États-Unis.
La Sénégalaise Ngoné Fall a accepté de structurer la première édition de cette résidence africaine, ravie que ses séjours se concentrent sur la recherche, étape préliminaire à la création d'une œuvre.
Le principe de la Villa Albertine, ce n'est pas une résidence de création d'œuvres d'art, c'est vraiment une résidence de recherche. Donc j'ai sélectionné des personnalités pour qui un passage, un temps aux États-Unis fait sens. C'était évident pour moi que justement sortir des sentiers battus, et il y a effectivement un fil rouge, c'est la justice sociale. Et c'est quelque chose qui anime pas mal les protagonistes sur le continent africain depuis plusieurs années, à cause justement des contextes difficiles dans lesquels on vit, et une attention à la pertinence qu'on fait. On se pose toujours énormément de questions, nous tous, y compris moi. Qu'est-ce qu'on fait? Quel type d'impact veut-on avoir? Et comment est-ce qu'on fait avancer le Schmilblick?
Parmi les 5 lauréats, la conservatrice d'origine éthiopienne, Misla Lipsekal, le chorégraphe sud-africain Jay Pater, la productrice numérique nigériane Judith Okonkwo, l'astrophysicienne sénégalaise, togolaise et française Caroline Gay et la réalisatrice marocaine Baya Benchek El Feghoun. Lors d'une de ces missions, Apollo 13 était en danger et les astronautes s'en étaient sortis en étant particulièrement créatifs. Cela a fasciné l'artiste astrophysicienne Caroline Gay et lui a donné envie de voir plus loin.
Dans le recrutement des astronautes, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien sur la créativité. Or, plus tard, on va envoyer des astronautes sur la planète Mars. C'est un voyage long et psychologiquement, c'est très difficile. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un aspect créativité intégré chez les astronautes, en fait? Donc, c'est la question que je me pose.
2 mois durant, la jeune femme va accéder à 2 labos de neurosciences au Texas et surtout à la NASA. Son but est de trancher sur l'utilité d'un programme créatif à intégrer à la formation des astronautes. Baya Benchek El Feghoun n'a pas pris sa caméra, la réalisation. L'actrice marocaine vient pour mener une enquête, retrouver des femmes, des sorcières qui auraient jeté un sort à Wall Street dans les années 60, et elle apprécie bénéficier de cette résidence un peu décalée.
C'est la première à laquelle je participe et je pense que c'est un immense confort et une très belle opportunité pour pouvoir faire au mieux, travailler au mieux et se consacrer pleinement à cette recherche-là.
10 autres artistes africains seront invités d'ici 2025.
Reportage de Karine Otten à New York pour VMDN. Dans un instant, le journal sur RFI. On se retrouve demain avec King Ju de Stupeflip pour le 5e album intitulé Stup Forever. Et vous m'en direz des nouvelles.